Édouard Schumacher, bonjour.
Quentin, bonjour.
Votre épiphanie est automobile, c'est-à-dire vos premiers souvenirs, vos premières émotions à bord d'un véhicule, sportif ou pas d'ailleurs, c'était quand et c'était dans quel véhicule, si vous vous en souvenez?
Alors j'ai deux souvenirs, un du haut de mes 3 ans, puisque j'ai eu la chance de conduire une Alpine
à 3
pour
ans,
enfants,
ouais, une Alpine
okay. À essence.
Très précoce.
Fantastique, mais je crois que mon premier vrai souvenir d'une voiture, c'était ma première voiture. On se rappelle toujours de sa première voiture.
C'est vrai.
On l'oublie jamais. Et la mienne, c'était une Dacia. C'était une des premières Dacia au moment où Renault reprenait cette marque, au moment où Renault mettait en place tous les process qualité, et donc ma Dacia, elle n'était pas complètement bien assemblée. Et je me rappelle que ma Dacia, j'étais un jeune conducteur en plus à l'époque, et tout le monde la regardait, elle était un petit peu déglinguée, champagne, en plus une couleur un peu particulière, et comme j'étais un jeune conducteur, eh ben, j'avais oublié de desserrer mon frein à main, et j'ai mis le feu à la voiture place de la Bastille. Mais très vite, j'ai pu éteindre le début de foyer.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec Édouard Schumacher, donc, qui a créé sa société LS Group, où vous vendez des voitures, pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit à la fois des voitures de luxe qui coûtent parfois des centaines de milliers d'euros, mais aussi justement d'autres marques plus classiques, plus banales, j'allais dire, comme Dacia dont vous venez de nous parler. Est-ce que ça a toujours été évident pour vous, Édouard Schumacher, de travailler dans ce business des voitures de luxe ou pas ? Depuis alors, votre plus tendre enfance, puisqu'on est à ces considérations.
Je n'étais pas un car guy, je n'étais pas prévu pour rentrer dans l'automobile, et ce sont plutôt des circonstances de la vie qui m'ont amené à reprendre des groupes de concessions.
Lesquels ?
Renault, à l'époque.
Ouais.
100% Renault.
Mais quelles circonstances de la vie, plutôt ?
Alors, j'avais 25 ans, je terminais mes études de droit, et puis j'avais cette envie de faire de la communication plus tard. Et c'était une entreprise familiale qui avait été fondée par mon père. Mon père est décédé, et j'ai intégré cette entreprise que je ne connaissais pas. Je me suis dirigé dans la seule concession que je connaissais, puisqu'elle était située à 300 mètres de la fac. Donc, je suis passé de la fac à la concession, dernière année droit, me restait mon stage en entreprise, et puis finalement, ça fait 18 ans que je suis en stage, et je m'y plais bien.
Donc, c'était pas prévu.
Pas du tout.
Les circonstances, effectivement, vous venez de le dire, familiales, et vous vous êtes senti tout de suite comme un poisson dans l'eau, ou alors il vous a fallu faire un petit peu, bosser un petit peu tout ce qui est culture d'entreprise, connaissances mécaniques, sémiotiques des marques, des différentes marques. Dites-moi tout ça.
Alors, un poisson qui avait des drôles de couleurs, hein, 25 ans, moi, un vrai Parisien, donc l'automobile, ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi.
Ouais, ouais.
Et il a fallu s'intégrer dans une entreprise familiale qui, en plus, était en difficulté à l'époque, donc j'ai joué le caméléon, et j'ai appris à devenir un concessionnaire. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, j'ai appris à aimer ces métiers. Et quelque part, j'ai commencé à me réaliser et aussi à apporter ma touche de couleur pour travailler différemment ce secteur automobile.
Qu'est-ce que vous avez apporté justement comme touche de couleur ? Qu'est-ce que vous avez changé à ce business model qui, vous le disiez, était un peu en difficulté ?
Alors, bien sûr, on a poursuivi notre développement avec la marque Renault. Nous sommes développés aussi avec d'autres marques généralistes. Mais ce qu'on retient peut-être le plus facilement depuis 7 ans, c'est cette incursion qui est devenue un vrai axe de développement pour nous dans les marques dites de prestige. Mmh. Alors, j'aime pas parler de marques de luxe. On va me dire que Lamborghini,
c'est un gros mot.
McLaren, bah, l'argent n'a pas de valeur en soi. Ça, okay. Ça ne veut rien dire pour moi. À travers ces marques de prestige, finalement, il y a deux axes qui m'ont parlé tout particulièrement. Une partie lifestyle, une partie sport, engagement, compétition. De manière générale, c'est l'expérience client qui m'a intéressé dans ces marques, puisqu'on pouvait la travailler de manière plus agile, plus efficacement.
Mmh. Et qu'est-ce qui fait justement que votre patte en termes de relation client, mettons, moi, j'ai pas assez d'argent pour m'offrir ça, mais disons une belle Porsche à environ 100 000 euros, pourquoi je l'achèterais chez vous et pas chez Porsche?
C'est juste... Alors, d'abord, chez nous, ce sera chez Porsche, puisque nous sommes des représentants officiels de la marque.
Entendu.
Et le constructeur, en tout cas en l'occurrence Porsche, ne vend pas directement aux clients finaux les véhicules. Alors, pourquoi aller chez nous ? Parce qu'il y aura probablement une qualité de service, une proximité avec nos équipes, pourquoi pas avec moi-même. Et moi, en tant que client, de manière générale, j'aime connaître mon commerçant.
Vous aimez connaître votre commerçant. Est-ce que quand vous êtes arrivé, je reviens encore un peu en arrière, parce que c'est une question que je voulais vous poser, que j'ai pas pu parce qu'on a bifurqué. Vous reprenez les rênes de votre papa, vous arrivez dans la boîte, vous connaissez pas forcément tous les codes. Est-ce que tous ces gens qui étaient là, vous respecte directement? Est-ce que vous êtes considéré comme le fils à papa qui est un peu, pas parachuté, mais disons qui arrive et qui connaît pas grand-chose? Là, on est 18 ans plus tard, j'imagine que c'est différent, mais est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours, justement de...
Oui, je m'en rappelle particulièrement, parce que souvent, en plus, les deuxième, troisième générations des entreprises familiales m'interrogent sur mon propre parcours, me demandant quelles ont été les clés du succès jusqu'ici. D'abord, j'ai eu une chance, dans mon malheur, c'est que mon père s'était retiré de la direction opérationnelle quelques années auparavant. Mmh. Donc la comparaison immédiate n'a pas pu se faire.
Ah oui.
Ensuite, l'entreprise était en difficulté. Donc quelque part, ça ne pouvait pas aller plus mal. Souvent, on me pose la question de la légitimité pour les générations successives dans les PME ou les ETI familiales. Ce n'est pas une question de légitimité, c'est une question de crédibilité. La crédibilité, c'est l'engagement, c'est le travail, c'est l'investissement. Et c'est la solidarité avec ces équipes. Et je pense que ces équipes ont vu que, pour moi, il était primordial, il était essentiel de sauver cette entreprise et que j'étais prêt à tout déployer, tous les moyens, y compris moi-même. Je pense que j'ai même vécu une période qui était difficile, hein, physiquement, psychiquement, mais pour la sauver. Et ça, ils l'ont reconnu. C'est là où j'ai gagné ma crédibilité.
C'est louable, en effet, de gagner sa crédibilité de cette manière. On reparlait des marques de prestige donc, que vous distribuez. Est-ce qu'ici, à Paris, en région parisienne, il y a assez de... Il y a beaucoup de clients pour ces véhicules de prestige par rapport à... Tout à l'heure, on parlait de Porsche, hein, ou on parlera aussi tout à l'heure d'une marque italienne. Est-ce qu'en en France, et particulièrement à Paris, en Ile-de-France, il y a beaucoup de clients pour ces véhicules-là?
Alors en France, ce que je ressens, c'est qu'il y a une passion pour l'automobile de prestige qui est même peut-être plus forte que par le passé.
Alors pourquoi?
Maintenant, parce que je crois qu'il y a toujours finalement une envie d'excellence. Mais le problème, c'est quand on parle de voiture, c'est toujours un peu un pot pourri. On mélange l'automobile, la mobilité nécessaire pour aller travailler, pour déposer ses enfants à l'école, avec la passion. Ce sont des débats politiques, des débats qui n'ont strictement, finalement, rien à voir les uns avec les autres. Ce qui est certain, c'est que la voiture, dans les grandes métropoles régionales, dans le centre historique de Paris, n'a plus sa place aujourd'hui, ou plus de la même manière. Et d'ailleurs, nos clients sortent de l'hypercentre parisien. Mais bien sûr, en Ile-de-France, bien sûr, en France en général, il y a des clients pour ces automobiles de prestige. Et de manière générale, les Français aiment la voiture. Et aiment peut-être encore plus la voiture que par le passé.
Parce qu'on dit, on a coutume de dire justement, alors, les Allemands, par exemple, ils mettent vraiment beaucoup d'argent dans la voiture, en gros, caricatural, mais ils vont chez Lidl en Porsche, quoi, pour faire leurs courses. En France, nous, on a coutume de dire que notre argent, on le dépense pas forcément de la même manière. Vous me dites que quand même un peu, finalement.
C'est vrai que nous, les Français, on a du mal à assumer des signes extérieurs de réussite. On est un peu jacobins. Mais en réalité, le marché français est très, très dynamique.
On achète une belle voiture, mais on la laisse dans un garage, ou alors quand on la conduit, on met une casquette et lunettes de soleil, surtout pas pour être reconnu.
C'est vrai, mais aujourd'hui, ce que je constate, depuis que nous sommes engagés dans la compétition automobile, nous avons deux teams, une écurie Alpine et une écurie Porsche, qui sont en compétition, eh bien, c'est que les Français sont de plus en plus engagés dans une démarche sportive avec leurs véhicules. Nous, quand nous vendons des véhicules de prestige, très peu de nos clients utilisent leur véhicule simplement pour aller faire leurs courses ou pour aller au restaurant. Ou on a d'abord de plus en plus de femmes, mais de plus en plus de clients qui, le week-end, veulent travailler leur sportivité et pourquoi pas devenir eux-mêmes pilotes un jour.
Ah oui, ça c'est une nouvelle tendance.
C'est une nouvelle tendance, ou en tout cas c'est une tendance qui s'est largement consolidée ces dernières années et qui, à mon sens, s'est accélérée depuis le Covid.
Et la féminisation de tout ça, vous venez de le dire, ça c'est pareil, c'était un peu...
C'est
improbable.
C'est sûr que l'automobile, ou en tout cas de prestige, on l'associe au mâle, chef d'entreprise, au cadre dirigeant, quarantaine bien mûre, voire cinquantaine. Et aujourd'hui, non, nous avons de plus en plus de femmes. Et c'est aussi pour cette raison que notre communication, nous l'avons réorientée vers des populations plus jeunes et des populations beaucoup plus féminines, pour réinscrire l'automobile chez ses futurs clients.
Et comment vous sélectionnez, alors, donc, en fonction de tout ce que vous venez de me dire, la gamme de voitures, donc je l'ai dit, va de Dacia à McLaren, en gros. Comment vous sélectionnez justement ces modèles que vous allez vendre?
Alors d'abord, ce sont des partenariats avec les constructeurs. Donc le premier échange va se faire avec le constructeur qui va attribuer au concessionnaire qui l'aura choisi une zone de chandise sur laquelle il va représenter la marque. Dacia, c'est la troisième ou la deuxième marque vendue à particuliers en France. Et en Europe, on voit que l'ascension est fulgurante. Donc bien évidemment, en tant que commerçant, parce que je vends des produits et des services liés à la mobilité, eh bien Dacia est une marque qui m'intéresse. McLaren, c'est une marque de niche, mais c'est une marque qui est juste fabuleuse. Elle est issue de la F1, et forcément, la passion parle, et forcément, si on veut s'adresser à une clientèle sportive, il faut représenter une marque comme McLaren, ou comme Dallara, ou une marque comme Alpine.
Dallara, qui est une marque italienne que vous représentez depuis très peu de temps.
Depuis très peu de temps, que nous représentons principalement en région parisienne, puisque nous sommes deux représentants en France. C'est peut-être la seule marque sur laquelle les zones de marchandises sont beaucoup plus libres, parce qu'on travaille, et c'est là où cette marque est, je trouve, très intelligente, très smart, on travaille des communautés de clients plutôt que des secteurs géographiques.
D'accord.
Dallara, c'est une marque qui est fabuleuse, qui est peu connue du grand public, parce qu'elle sous-tend toutes les hypercars chez tous les plus grands constructeurs automobiles. Là encore, une recherche de crédibilité sportive.
J'imagine, Edouard Schumacher, que les voitures modèle McLaren ou modèle de prestige, vous dites, et pas de luxe, qui font un peu rêver, vous n'en vendez pas 15 par mois. Ça, c'est beaucoup plus rare, peut-être. J'ai du mal à évaluer. C'est combien un véhicule par mois, et c'est déjà pas mal ou c'est...
Alors, bien évidemment, je n'ai pas le droit de communiquer sur les volumétries parce que j'ai des accords avec mes constructeurs partenaires. Mais vous seriez surpris par le nombre de véhicules que nous sommes capables de vendre. Et d'ailleurs, chez tous les constructeurs que nous venons de citer, eh bien, nous avons un problème de pénurie. Nous n'avons pas assez d'allocations, de disponibilité industrielle pour satisfaire nos clients. C'est pour ça que je vous dis que cette passion, elle est là, et y compris en France. 100% de nos clients sont français.
100% de vos clients sont français. Donc vous parlez tout à l'heure du cliché, du chef d'entreprise mâle, etc. Vos clients, pour le luxe, c'est pour le prestige, pardon, c'est des chefs d'entreprise, c'est des joueurs de football. Quelle est la sociologie du client? J'imagine là encore que vous n'allez pas pouvoir me donner de nom, mais en gros.
Des indications. Effectivement, des chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants, femmes ou hommes, qui veulent vivre leur voiture au quotidien, c'est cette démarche lifestyle, qui veulent s'engager dans la compétition sportive, et là on est prêt pour les accompagner. Assez peu finalement de clients étrangers, parce que nous travaillons nos secteurs et nos réseaux de communautés qui sont composés essentiellement de Français. Et sur la question de savoir, est-ce qu'on a beaucoup de personnes du showbiz, dans la démonstration, non, finalement, assez peu. Ce sont des vrais spécialistes, des personnes plutôt discrètes qui veulent vivre leur passion avec des personnes qui partagent cette même vision et qui sont extrêmement généreux aussi vis-à-vis des fans. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on rappelle.
Allez-y.
Si on parle de Bugatti, on se dit, Bugatti vendait 85 voitures par an dans le monde. Ce ne sont pas les 85 clients qui font vivre une marque comme Bugatti, ou plutôt qui lui donnent l'impact qu'elle a. Ce sont les millions ou les centaines de millions de fans qui sous-tendent cette marque. Et ça, c'est une vocation que nous avons dans cette entreprise, dans LS Group, que nous partageons avec nos clients, c'est de partager cette passion avec le plus grand nombre. On a tous rêvé d'avoir une Lambo. On a tous eu un poster dans notre génération, dans notre chambre, d'une Lamborghini Diablo.
Merci Edouard Schumacher, ce sera le mot de la fin. Vous êtes patron de LS Group, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous dis à très vite.
À très bientôt. Quelle est ma voiture à moi ?